Les gouttes d'eau, le podcast de vos talents. Notre nouveau podcast, Le Mouvement, avancer sans bouger. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Parent de Curzon. Bonjour Agnès, vous êtes venue nous parler d'un thème qui vous est cher, avancer sans bouger. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter.
Bonjour François. Merci pour votre invitation à discuter de ce thème qui me tient à cœur, même s'il est apparemment contradictoire, avancer sans bouger. Pour moi, c'est parler du mouvement, c'est parler de la vie. Et j'aime la vie et ce qu'elle m'inspire. Mais avant de vous dire les métiers, ou du moins ce que j'ai fait, j'ai envie de vous dire ce qui a tracté mon moteur, ce qui m'a motivé. Parce que pour moi, c'est essentiel. Ce qui m'a poussée à faire tout cela, c'est l'envie d'être heureuse d'abord et de vivre dans la joie. J'ai cette aspiration-là très profondément ancrée dans le corps. Et puis ensuite, c'est le désir de diffuser cet état d'être. Pour être dans l'harmonie, un peu, vous voyez, comme la violette qu'on croise dans la forêt au printemps. On perçoit le parfum, on se dit qu'il y a quelque chose qui sent très bon par là, on ne sait pas où est la violette, et ce n'est pas grave qu'on ne sache pas où elle est. Ce qui compte, c'est ce qui diffuse autour d'elle. Et je voudrais vraiment cette invitation à la parole, pour moi, c'est une invitation à diffuser ce qui me fait vivre. Et c'est très jouissif pour moi, et je vous en remercie. Et la dernière chose qui m'a poussée, en plus d'être heureuse, l'envie d'être heureuse, c'est le besoin de me sentir libre. C'est très important, c'est le tigre dans mon moteur.
Alors le temps est venu que vous nous surpreniez. Parlez-nous donc des mouvements de votre vie et de ce que vous avez fait.
Ce que j'ai fait, j'ai bougé. Et je vais vous présenter les différents métiers que j'ai exercés. Il parle de mouvement, de changement, de passion et a priori la trajectoire n'est pas linéaire ni prévisible. Mais pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, je vais prendre l'ordre chronologique. J'ai commencé par être chirurgien des yeux, ophtalmologue, à l'hôpital, à l'Hôtel Dieu de Paris, dans ce service absolument prestigieux et merveilleux. Et ensuite j'ai travaillé en Afrique pendant 18 mois aussi, comme une parenthèse un peu magique, dans un service d'ophtalmologie à Bamako, au Mali. Puis, j'ai rejoint la recherche pharmaceutique au sein de la direction médicale d'une entreprise multinationale. Ça a été une occasion de découvrir d'autres mondes, d'autres interlocuteurs, de faire des rencontres variées et très intéressantes. Puis, au bout d'une douzaine d'années, j'en avais fait le tour et j'ai senti le besoin de faire autre chose. J'ai commencé à m'ennuyer et donc j'ai négocié mon départ et je suis partie m'initier à l'art-thérapie parce que je ne savais pas très très bien quoi faire. Et donc je me suis dit avec l'art-thérapie, il y a quand même le mot thérapeute, je suis peut-être en terre connue. À la fin de cette année d'art-thérapie, quelqu'un m'a proposé de me former au coaching et je suis partie à HEC pour me former au coaching, pour devenir coach professionnel, ce qui est mon métier actuel, qui est celui d'accompagner les gens pour révéler ce qu'ils ont en eux-mêmes et dont ils ne sont pas toujours conscients.
Et n'y aurait-il pas d'autre chose que vous voudriez ajouter ?
Et oui, bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est la poésie qui s'est invitée il y a une dizaine d'années et qui m'a donné le plaisir de publier deux livres de poésie. Le premier s'appelle « Les brèves d'Agnès » aux éditions L'Harmattan. Et le deuxième, qui est sorti il y a 18 mois, c'est « Pose ton encre ailleurs » aux éditions Complicité. Et ce deuxième livre, j'aurai plaisir de le signer lors de la foire aux livres de Bruxelles début avril. Et c'est un grand moment pour moi et je compte bien vous y retrouver tous, nombreux. Et puis, donc il y a la poésie et puis une autre forme d'écriture. Il y a un troisième livre qui vient de sortir, auquel j'ai participé. Il s'agit d'un recueil de témoignages au sein d'un collectif de 9 personnes ayant eu des parcours de vie qu'on pourrait qualifier d'atypique. Il porte ce titre « La flamme d'être » et il est édité par les éditions David Reynarch. Et c'est un cadeau pour moi, c'est un vrai cadeau de Noël que cette flamme qui sort et qui me permet de vivre l'expérience d'être co-auteur avec 9 autres écrivains très différents. Donc voilà, voilà les différents, j'allais dire, métiers et aussi les différents exercices de vie dans lesquels je me déploie.
Très bien. Une question cependant me vient à vous entendre. Quel est donc le fil conducteur, le lien entre tous ces métiers si différents ?
Bah, le premier lien, du moins ce qui a tiré le fil conducteur, je dirais d'abord, c'est la curiosité. Et pourquoi pas, et pourquoi je n'essaierai pas ce que l'on me propose, ce que la vie me propose. Je n'ai pas changé le métier par dépit, mais vraiment par envie d'aller voir autre chose, de découvrir d'autres mondes. Et le fil conducteur, pour répondre à votre question, je dirais que je l'ai longtemps cherché, ce n'était pas évident pour moi, car c'était des métiers apparemment disparates. Mais le fil conducteur, c'est le regard. C'est vraiment le regard. Et je m'explique. Le chirurgien, il opère un œil chez un patient, c'est dans le but de lui rendre une meilleure vision. Le coach, il pose son attention sur quelqu'un ou sur une situation, il est révélateur de celui qui l'accompagne. Et je pourrais dire que c'est un regard qui écoute et une écoute qui inspire. Et je prends l'exemple de quelqu'un, un client qui vient parce qu'il a un choix de projet, il ne sait pas si ce qu'il doit faire, rester dans l'entreprise ou aller ailleurs. Et puis il va cheminer, et puis tout d'un coup il va réaliser que ce qu'il avait prévu, ce n'était pas du tout ça. Et il va partir dans une toute autre direction que je n'aurais même pas anticipée. Il a trouvé sa voie, la sienne. Et le coach l'a juste aidé à trouver sa voie, sa direction, simplement par un autre regard. Et quant au poète, ben, il capte un instant de vie, une dynamique, un déséquilibre, un instantané, comme dirait un photographe, et puis il le pose sur une feuille. Il offre son regard au monde qui l'entoure. Et le regard, il peut se poser aussi bien pendant un confinement que dans, dans un bistrot, à l'heure de l'apéro, lors d'un tremblement de terre au Chili, un coup de vent à Ouessant, n'importe où. C'est vraiment attraper un instantané et le coucher sur le papier. C'est ça la vie de poète.
Très bien. Ben écoutez, merci pour ces quelques mots qui nous permettent de mieux vous connaître. Maintenant, je vous propose d'aller plus loin, d'avancer en quelque sorte. Vous avez souhaité nous parler du mouvement et du non-mouvement. Pour quelles raisons ?
Et pour répondre à la question que je me suis posée, et pourquoi ne pas parler en plus d'écrire ? Parce que parler, c'est très différent. Je ne sais pas parler. Je sais mieux écrire, parce qu'écrire, on peut chercher le mot, on peut gommer. Quand on parle, il y a une prise de risque, mais quand on parle, il y a un échange direct avec l'autre. Et c'est probablement ce que je recherchais dans la parole et dans le fait de parler, et notamment avec vous aujourd'hui. Et je parle de ce que je vis comme on fait un partage d'expérience. Je préfère ça plutôt que de faire une analyse purement conceptuelle et rationnelle sur un thème intéressant. Car je suis persuadée que c'est dans le concret d'un vécu qu'on rencontre l'autre. Et puis aussi, l'autre chose qui m'incite à parler, c'est mon souhait d'encourager le mouvement, de donner envie aux autres aussi de bouger. Aussi bien pour aller voir l'autre à l'extérieur que de bouger pour se découvrir, se connaître soi-même. Et puis s'émerveiller. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote qui a eu lieu pendant le confinement. J'étais à Paris et puis le jour de mon anniversaire est arrivé. Et ce matin-là, je me suis dit, je ne peux pas, il faut qu'il y ait quelque chose de sympathique qui m'arrive. C'est le jour de mon anniversaire. Simplement, je ne voyais pas ce qui pourrait arriver. J'ai donc fait un premier mouvement vers l'univers et j'ai dit, faites qu'il y ait quelque chose d'aujourd'hui qui se passe, qui soit drôle et sympathique, c'est mon anniversaire. Et je suis sortie, deuxième mouvement, dans les heures autorisées par la loi, bien entendu. Et je suis allée me promener et en revenant, au bout d'une heure, j'ai pris un carton, mais quasiment sur la tête. J'ai été obligée de m'arrêter devant ce carton qui est tombé à mes pieds. Et là, troisième mouvement, et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai poussé le carton, je l'ai retourné avec mon pied. Et qu'est-ce que j'ai vu d'écrit sur le carton ? Bon anniversaire. Et ce carton, il s'était détaché d'un des étages d'un immeuble dans lequel il n'y avait personne. Waouh ! Là, je me suis dit, la vie, c'est quand même incroyable. Et je me suis émerveillée de ce cadeau qui est arrivé, que j'ai cueilli simplement par une succession de mouvements, de l'intention jusqu'au mouvement. Mmh. C'était quelque chose de magnifique.
Je vois, c'est très bien. C'est très intéressant et l'image est belle. Mais dites-moi, le mouvement, quoi en dire ?
Le mouvement, on ne peut pas faire sans. Le mouvement, ça me renvoie déjà, cette expression de « aller voir ailleurs », ça peut être aussi « aller vous faire voir ailleurs », avec un côté de rejet, « t'as pas ta place ici, il faut que t'ailles voir ailleurs ». Mais on peut aussi l'entendre comme une invitation à aller voir ailleurs, car la proposition de bouger, c'est une vraie dynamique, c'est une évolution, il faut faire le premier pas. Et je prends l'exemple de mon premier ça a été fondateur pour moi. J'avais 18 ans, j'avais commencé mes études de médecine. Je n'avais jamais quitté le domicile familial et je suis partie à Calcutta retrouver des amis qui travaillaient auprès de Mère Teresa. Et je suis arrivée le soir, la nuit, il faisait déjà nuit, et j'ai pris de plein cœur, j'allais dire, le bruit, la pollution, les gens qui étaient malades, qui dormaient sur le trottoir ou qui dormaient pour l'éternité. C'était une violence incroyable. Arrivée dans le bidonville, mes amis m'ont montré l'endroit où je pourrais dormir, sur le sol, là, tranquille. Et ça a été la première nuit blanche et ma vraie nuit blanche de toute ma vie, car j'ai passé cette nuit-là à me dire comment je fais pour expliquer à mes amis que je repars le lendemain matin. Je ne peux pas rester là, c'est trop fort, c'est trop violent pour moi. Et puis vers 5 heures du matin, au moment où je m'assoupissais probablement, j'ai entendu comme des murmures, un petit bruit, et puis ça m'a obligé à ouvrir, encore un mouvement, à ouvrir les yeux. Et là, j'ai pris de plein fouet le regard de tous ces gamins, gamines, qui observaient cette jeune fille venue d'ailleurs pour voir son amie et pour les voir pendant un petit moment. Inutile de vous dire que je suis restée parce que je ne pouvais pas partir. Parce qu'outre le fait que je me sentais très impuissante devant eux, je me serais sentie lâche de partir à ce moment-là. Donc je suis restée et j'ai joué avec eux. Je ne parlais pas le même, on ne parlait pas la même chose, ce n'était pas grave. On a vécu ensemble et ils m'ont fait découvrir la joie. Donc pour moi, ce premier pas vers ailleurs, un vrai ailleurs, c'était Calcutta, ça a été un pas vers la joie de la découverte. Un grand moment pour moi.
Mmh. Alors, vous venez nous expliquer ce qu'était pour vous le mouvement, c'est la vie. Mais dans ce cas, qu'en est-il de la mort alors? Non-mouvement par excellence?
Non-mouvement par excellence, la mort, oui, c'est un corps qui ne bouge plus, qui ne respire plus, c'est clair. Même si je pense qu'il y a une transformation physique et quelque chose vers un départ d'une partie de ce corps vers une autre vibration de lumière, d'amour, on ne sait pas encore tellement le nommer. Mais j'ai la certitude qu'il y a une transformation et qu'il y a une vie après la mort. Et les scientifiques commencent à y arriver, puisqu'ils étudient toutes ces expériences d'état de conscience modifié, de gens qui reviennent d'un coma dit profond et qui racontent leur passage vers ailleurs. Donc j'ai cette confiance qu'il y a quelque chose ailleurs. Mais pour moi, la mort, là, telle que je la vois par rapport au mouvement, elle est importante parce qu'elle nous confronte à la vie, si nous voulons bien l'entendre. Au début, je vous ai dit, dans notre entretien, je vous ai dit que j'avais envie d'être heureuse. Et j'ai été confrontée à 20 ans, il y a 20 ans à peu près, à la mort de mon mari. Et là, tout d'un coup, j'ai eu vraiment la tentation d'en finir. Et ça m'a pris comme une tenaille autour du cœur. Et c'était tellement logique et tellement évident que c'était la seule solution correcte, c'était de vraiment d'en finir, que j'ai eu du mal à me lever ce matin-là, je devais aller bosser, et la seule solution, enfin la seule chose échappatoire que j'ai pu trouver dans cet étau, c'était de me dire, ok, tu vas en finir, mais il reste à trouver comment. Donne-toi la journée pour trouver comment tu vas en finir. Et je suis partie travailler, inutile de vous dire qu'il y a une partie de moi qui était ailleurs, et que je n'ai pas travaillé, j'ai vraiment été sans respiration pendant toute une journée. Et puis vers 5 heures, il y a eu une libération. Je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que j'ai une demande, est-ce que j'ai demandé de l'aide à un moment donné, je n'en suis même pas sûre tellement j'en étais incapable. Mais une évidence, j'ai choisi la vie. Et dans ce sens, d'avoir été confronté à ce point à la mort m'a renvoyé avec une vitalité essentielle à un choix de vie. Et dans ce sens, la mort peut nous chercher jusque-là.
Bien, après ce détour dans les extrêmes de la vie et de la mort, je vous propose de nous expliquer ce que vous entendez par « avancer sans bouger », qui est l'objet de votre présence avec nous aujourd'hui.
Et avancer sans bouger, ça peut faire rire, on pourrait dire que c'est une figure de style, mais c'est une réalité. D'abord pour tous ceux d'entre nous qui prennent le train, on sait très bien qu'on est assis, on attend que le train arrive, avec ou sans retard, peu n'importe, mais qu'il arrive. Et une fois qu'on est arrivé, quelque part, on est arrivé sans avoir bougé. C'est le train qui a bougé, mais pas nous. Donc, c'est une réalité d'avancer sans bouger. Après, il y a aussi le fait auquel j'ai été confrontée d'être immobile. et j'ai été immobilisée par force. Je ne l'ai pas choisi et j'ai découvert ce qu'était l'immobilité, le non-mouvement, parce que j'ai été paralysée deux fois dans ma vie. Une fois à la suite d'une maladie neurologique attrapée derrière une infection non soignée ou enfin, négligée par moi-même. Et je me suis retrouvée paralysée pendant 6 mois. Et j'ai découvert, quand j'ai pu recommencer à marcher, la hauteur des trottoirs de Paris, la nécessité d'avoir un mur à côté de soi, le bonheur d'avoir un petit banc où on peut s'asseoir pour se reposer. Bref, j'ai découvert tout ça. Ça, c'est ma première expérience. Et puis, 20 ans plus tard, là, il y a une dizaine d'années, j'ai été confrontée à une deuxième paralysie pour une autre raison, une inflammation dans la moelle épinière. Vous savez, l'autoroute des nerfs dans la colonne vertébrale. Et je ne pouvais plus bouger pareil. Et là, je me suis retrouvée à nouveau hospitalisée là, pendant 15 jours dans un lit d'hôpital. Et j'ai découvert ce qu'était l'immobilité totale. Et je peux vous dire que pour un chirurgien, d'être immobilisé dans un milieu qu'il connaît bien, parce que c'est l'hôpital dans lequel il est habitué à contrôler, eh bien, il y a deux solutions. Soit il se crispe définitivement, soit il laisse son cœur s'ouvrir à cette expérience. Et je crois que c'est ce que j'ai eu la grâce de recevoir.
Mais alors, comment fait-on pour avancer sans bouger?
Je prendrais une image, je dirais qu'il faut aller dans l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, que tous ceux qui font de la météo savent que c'est le seul endroit où il y a de la paix une fois qu'on a traversé les turbulences.
Oui, mais encore.
Les turbulences, en fait, il peut y avoir plusieurs turbulences. Celles qui viennent du dehors, on les connaît bien, c'est les turbulences de la vie, la compétition, le stress, l'agitation, la frénésie, la course permanente. Bon, ça c'est les turbulences extérieures qu'il nous faut travailler, ou au boulot, toutes les pressions que l'on a au boulot, tout ça sont des turbulences qu'on est obligé de traverser. Bon, pour essayer de trouver la paix. Et puis il y a les turbulences intérieures, qui sont... Alors, quand on est immobile, pour prendre un cas concret, c'est l'épouvantail de ne plus pouvoir bouger, d'être en chaise roulante, de se dire, mais il y a quelqu'un qui va m'emmener le jour où je veux pas, là où je veux pas, quand je veux pas et au mauvais moment. Et cette peur de la dépendance et de l'abandon, de la solitude, est quelque chose d'extrêmement fort à traverser. Ça, c'est une turbulence intérieure.
D'accord.
Et une fois qu'on les a traversées, on peut se retrouver effectivement dans la zone de paix. Mmh. L'œil du cyclone.
Rejoindre l'œil du cyclone, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Comment faites-vous, Agnès?
Pour reprendre ce que nous disions un petit peu avant de commencer cet enregistrement, il s'agit de passer du faire à l'être, de passer de l'activité à une zone de silence et de paix. Moi, je fais comme je peux, d'abord. Mais ce qui compte, c'est l'intention. L'intention farouche d'arriver dans cette zone de calme et la volonté inflexible d'y aller. Et quand la volonté elle est en carafe parce qu'on est fatigué, je dirais qu'il y a le « je voudrais bien » qui fait valeur de l'intention et qui est aussi fort que l'intention. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a des techniques, j'allais dire, de respiration, de visualisation qui peuvent aider à faire silence et à retrouver le silence. Convoquer un endroit dans lequel on se sent bien, pour moi, ça va être la pointe du Raz, par exemple, face à l'océan. Si je convoque cette image et que je me retrouve là, je vais être dans ça va me faciliter les retrouvailles avec la zone de paix. Donc je dirais que respirer, visualiser sont vraiment des clés d'accès au calme. Et puis, la troisième moyen de traverser pour arriver dans la paix, c'est de demander de l'aide. Ne pas hésiter. Sous toutes ces formes, alors ça va être du voisin de palier, au texto, au téléphone, à la prière. L'avantage de la prière, c'est qu'il n'y a pas de coupure de réseau. Voilà. Mais quelquefois, la réponse est différée. Mais il n'y a rien à perdre pour s'enrichir. Je me suis cassé la cheville il y a un an. J'ai découvert la puissance du demander de l'aide qui permet à l'autre de vous apporter son aide et d'exister dans votre regard. Donc, c'est un vrai service qu'on
rend à l'autre. Des exemples à ce propos?
Oui, la fracture de la cheville. Mais il y a aussi la confiance au corps. Le corps sait ce dont il a besoin. Et l'exemple ou l'expérience fondatrice pour moi du corps sait ce dont il a besoin pour aller dans la paix. J'étais en Égypte. Nous visitions les pyramides et pour monter, il y a un boyau très étroit, on monte presque accroupi et puis une fois qu'on est arrivé en haut, il faut ressortir. Et là, consternation, parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas ressortir. J'avais mal partout, mes jambes ne savaient pas où se poser, ma tête se cognait et j'ai eu un moment de panique, je dirais même d'angoisse. Et puis à un moment donné, j'ai eu comme une intuition où j'ai entendu quelque chose qui me disait « mais arrête de penser, coupe tous les circuits et fais ton corps, c'est ». Et j'ai fermé toutes les vannes d'accès à la pensée, et mon corps a su sortir. Et 5 minutes après, j'étais dehors, absolument émerveillée de ce qui venait de se passer, et portée par un élan de vie qui me rend service encore maintenant, que je convoque quand ça ne va pas.
Y a-t-il une autre expérience qui vous a enrichi sur ce genre de voyage ?
Oh, je dirais, j'en ai pas là qui me viennent d'autres, mais les expériences de vie qui m'ont permis de prendre conscience de la zone de paix et aussi de mouvement perpétuel qui est celui de la vie et de la terre, hein, du cosmos. Je l'ai vécu en Thaïlande.
Vous pouvez nous en dire plus ?
Et si vous voulez, je vais vous en dire plus, bien sûr, parce que ça parle d'éléphantes. J'ai eu l'occasion d'aller rencontrer avec un groupe de thérapeutes des éléphantes. Ce n'est pas nous qui allions les voir, c'est elles qui sont venues auprès de nous. Ce sont des éléphantes qui autrefois étaient utilisées dans le tourisme et qui ont été rachetées par quelqu'un d'ailleurs d'assez exceptionnel, en l'occurrence, c'était François Collier, et qui leur offrait une retraite heureuse et il laissait quelques petits groupes de personnes venir vivre avec. Et donc un matin, nous sommes partis à la rivière et j'étais derrière la patte gauche, avant-gauche d'une éléphante, je me souviens. Et j'essayais de me concentrer, le groupe était assez agité, donc de temps en temps j'avais des distractions. Et à ce moment-là, mais à chaque moment, je recevais un coup de trompe de l'éléphante que je suivais, qui semblait me dire « mais centre-toi, reste avec moi, c'est là que ça se passe ». Et là, je suis vraiment restée dans sa patte jusqu'à la rivière et j'ai eu l'impression qu'elle se mettait dans mon pas, que j'étais dans son pas et que toutes les deux, on pourrait arpenter le monde et le cosmos pendant des siècles et des siècles. J'ai vraiment touché du bout du doigt, des doigts de pied. J'ai touché le mouvement perpétuel de la vie.
Et au-delà de cette expérience fort riche, qu'avez-vous retenu tout de même de cette expérience qui, peut-on dire, est peu commune ?
J'ai déjà retenu qu'on n'a pas besoin d'avoir une éléphante à côté de soi pour aller dans les zones de paix et rejoindre ce mouvement perpétuel. Il suffit d'être en présence, en conscience de l'instant qui nous traverse. Et notamment d'aller, si on le peut, dans une forêt, dans la nature, de se nourrir de tout ce vivant qui nous entoure et qui bouge et qui chante et qui vibre. Et dès lors qu'on se met en présence avec cette vibration, on est en harmonie avec un monde qui bouge et on avance sans bouger.
C'est merveilleux ce que vous dites. Et maintenant, nous approchons de la fin. Et Agnès, quelle serait votre conclusion ?
Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de conclusion parce que ce n'est pas terminé que déjà ça recommence. L'instant présent est tellement ténu. Donc il y a toujours une transformation permanente. Et pour moi, tout est mouvement perpétuel, comme en témoignent certains mécanismes d'horloge ancienne que l'on n'a pas besoin de remonter. Pour moi, tout est vibration, tout est mouvement. Et dès lors que je me connecte à ce qui vibre, j'entre en lien et tout ça, ça me rend joyeuse. Parce que je peux aller à la rencontre de la paix et aussi, où que je sois, peu importe, et peu importe avec qui je suis, je rentre en lien avec mon voisin immédiat, vous, quelqu'un d'autre, que je lui parle ou pas, et je rentre en lien avec celui qui est à portée de regard et même celui qui est plus loin encore, au-delà. Et je me sens vivante. Comme un soliste dans un orchestre qui participe à l'harmonie du monde, tout simplement en étant présente et en faisant bouger son triangle au moment juste où on lui demande de le faire, et puis c'est tout. Gratitude.
Alors, au terme de cet entretien, qui fut fort riche, riche d'enseignements, riche également de vos valeurs, avancer sans bouger, Agnès, est-ce possible ?
Oh oui, absolument. Dès lors qu'on a envie de rejoindre le mouvement profond de la vie, avancer sans bouger, c'est vivre en lien.
Oui, et alors j'aimerais un petit peu, tout en jouant, apporter quelques précisions supplémentaires à nos auditeurs. Et quels seraient les trois mots qui vous caractérisent ?
C'est une question, qui m'oblige à choisir. C'est difficile pour un poète de choisir. Je dirais aventurière, épicurienne et contemplative active. Aventurière parce que je déteste le changement, mais j'adore la découverte. Épicurienne parce que je cherche la quiétude de l'âme et la beauté et la bonté et le goût de la vie. Et contemplative, active, parce que j'apprécie infiniment le silence et celui qui accueille et qui est en écoute. Voilà, ces trois mots.
Et enfin, quelle est peut-être la nature de l'élan qui vous porte ?
Là, on descend dans l'être. Je dirais la quête de la joie sous toutes ses formes. dont l'amour, bien sûr. L'intention de diffuser cette paix en créant du lien et la présence à l'autre dans le silence de l'âme, ce tout qui nous contient et nous accompagne et qu'on ne peut nommer. Et je dirais que, vous me demandiez une conclusion, je dirais que, en conclusion, changer soi et se connaître soi plutôt que le monde, c'est quand même plus simple.
C'est merveilleux. Merci beaucoup pour ces propos et au moment de nous quitter, et je voudrais vous donner rendez-vous avec Agnès chez vos libraires, nos amis, pour acheter ce livre « La flamme d'être » aux éditions Reinhardt et qui vous donnera peut-être envie de témoigner et d'écrire à votre tour. Merci.
Merci François.
Ce podcast vous a plu ? Abonnez-vous pour être informé des nouveaux épisodes.